Il est 20h et tout de suite c'est l'heure de On se lève et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris.
Dear fellow feminists,
I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme?
On n'ose plus rien faire, on veut plus rien dire.
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Nous aussi, on se lève et on se bat.
Pas du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la fin du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes et à tous, salut Mao.
Salut Pauline.
Bienvenue tout le monde dans notre émission, on est content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ce soir on va parler d'émancipation trans et de féminisme, et donc de transféminisme. Le transféminisme ne serait-il pas à l'avant-garde des luttes féministes, ce qui ferait aussi du transféminisme la première cible du backlash anti-féministe? Voilà les grandes questions qu'on va se poser avec nos deux invités. Talma Desta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et militant féministe trans. Vous avez notamment publié Désiré à tout prix chez Binge Audio Éditions. Et vous venez tout juste de sortir un nouvel ouvrage le 7 avril intitulé La fin des monstres aux éditions La Déferlante. Notre deuxième invitée, c'est Daisy Le Tourneur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militante féministe trans et lesbienne, membre du collectif Toutes des femmes. Et vous avez aussi publié en 2022 votre essai On ne naît pas mec, petit traité féministe sur les masculinités aux éditions La Découverte.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Commençons cette émission avec un état des lieux, celui que l'association des journalistes LGBTI+ vient de sortir sur la représentation des personnes trans dans les médias en France. Le traitement médiatique a été étudié entre août et novembre 2022. On en tire plusieurs enseignements. On va commencer par le positif. L'AJL constate une certaine conscientisation des journalistes autour des problématiques trans, l'usage du deadname notamment tend à se raréfier. Les personnes trans apparaissent aussi dans les médias pour parler d'autre chose que de transidentité, bonne nouvelle. Vous, est-ce que, en tant que militant et militante, qu'est-ce que vous percevez du traitement médiatique de la transidentité ?
Bah, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui s'améliorent, notamment par l'usage du deadname qui tend à disparaître. Le deadname étant, on le rappelle, le prénom de la personne avant sa transition. Après, j'ai un peu l'impression que les journalistes ont appris les bonnes manières, et c'est super, c'est bien les bonnes manières. Sur le fond, par contre, c'est pas toujours top.
Par exemple ?
En fait, on voit que il y a beaucoup de fétichisation, beaucoup de questions intrusives. On reste beaucoup questionné sur nos parcours, davantage que sur nos expertises. Et puis, évidemment, il y a tout le backlash anti-trans qu'on voit de plus en plus émerger dans les publications RIAC.
Talma Desta, vous, qu'est-ce que vous en avez tiré ?
Oui, effectivement, les résultats de l'étude montrent que sur la moitié à peu près des contenus analysés, on est sur un traitement plutôt positif des transidentités, ce qui n'était probablement pas le cas jusque-là. Après, effectivement, il y a aussi l'autre moitié du coup qui est extrêmement mal traitée, dont un quart des contenus qui sont anti-trans, donc il faut quand même le relever, je pense. Et moi, ce que j'ajouterais, c'est que j'ai l'impression que c'est un résultat direct de la survisibilité des sujets trans ces dernières années, où forcément, parce qu'on en parle plus, on en parle mieux sur certains plans par ailleurs, mais aussi bien, bien mal sur d'autres. Donc typiquement, ça va être, sur la question du deadname, on s'améliore, mais certains autres sujets vont être complètement montés en épingle, dans la presse notamment, qui va instrumentaliser des thématiques très précises, comme l'accès des femmes trans aux compétitions sportives, comme des transitions, comme l'accès aux soins des mineurs, enfin bref, ça va être surtout une espèce de concentration des paniques morales autour de certains sujets spécifiques.
Et justement, ces paniques morales, c'est ce que remarque l'AJL, c'est que, presque paradoxalement, mais c'est pas vraiment paradoxal, on va le voir, les médias qui parlent le plus des problématiques trans, c'est plutôt des médias réactionnaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, effectivement, en fait, il y a de plus en plus des gens qui essayent de faire de créer une panique morale autour des personnes trans, parce qu'en fait, une panique morale, c'est quoi ? C'est une panique qui prend des proportions disproportionnées autour d'un problème qui soit n'en est pas un, soit est très mineur. Et dans le cas des personnes trans, on voit des personnes qui, depuis des années, en fait, essayent de faire monter la mayonnaise, en quelque sorte, de dire partout que les personnes trans sont un très grave danger, alors qu'on représente un tout petit pourcentage de la population. Et en fait, et de dire aussi on ne peut pas allumer la télé, on ne peut pas ouvrir un journal sans entendre parler des personnes trans, sauf qu'en fait, c'est vous qui en parlez.
Oui, effectivement, dans le rapport de l'AJL, le podium gagnant, enfin perdant, selon ma perspective, mais sur le traitement des sujets trans, ça va être Le Figaro, Marianne et L'Express, donc qui sont des journaux réactionnaires, et effectivement, qui parlent extrêmement souvent de ces sujets. Typiquement, Le Figaro, on est sur 70 articles qui ont été analysés dans l'étude, donc c'est une très grosse proportion des contenus analysés, donc il y a une obsession complète par rapport au parcours trans. Et je trouve ça assez intéressant aussi, parce que les sujets du coup qui sont instrumentalisés, qui sont montés en épingle comme Daisy le disait, ça tourne en effet très souvent autour des enfants, c'est ce qui ressort de l'étude, et ça vient dire quelque chose, ça vient bien dire que c'est une stratégie du bouc émissaire qui s'applique, parce que qui est contre la protection des enfants? Évidemment, si ce qu'on revendique c'est de protéger les mineurs, il me semble que personne n'est contre cet objectif-là, donc je trouve ça du coup intéressant à analyser comme simplement une espèce d'écran de fumée réactionnaire, et comme une instrumentalisation au sens où on parle des sujets trans, mais au fond c'est pas de parler de ces parcours-là qui compte, c'est simplement de se positionner dans un débat, dans la guerre culturelle qui permet d'altériser les personnes trans et de rappeler le caractère fondamental de la naturalité du genre, de la division sexuelle, etc.
Oui, justement, c'est la raison aussi pour laquelle on voulait parler de ce rapport pour introduire l'émission, parce qu'on se dit que ça peut permettre de tirer des fils. C'est assez représentatif de ces questions-là, de ce qui se fait sur ces questions-là de manière générale actuellement. Et donc, cette émission, on l'a construite autour de la notion de transféminisme. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, chacun et chacune, ce que c'est le transféminisme, Daisy ?
Oui, en fait, le transféminisme, à la base, c'est tout simplement la rencontre entre les luttes trans et les luttes féministes. On se rend compte, en fait, en réfléchissant un tout petit peu assez vite, que ce sont deux luttes qui ont beaucoup de choses à se dire, beaucoup de points communs, beaucoup d'ennemis communs aussi. Et donc le transféminisme, en fait, pour moi, c'est presque une évidence que les deux vont main dans la main. Après, dans un sens un peu plus large, il y a un certain nombre de théoriciens, théoriciennes qui vont aussi pointer les spécificités de ce transféminisme. Qu'est-ce que ça fait émerger, en fait, dans les réflexions féministes classiques, par exemple? C'est en fait en lien avec la théorie queer. On commence à se demander qu'est-ce que ça veut dire qu'être un homme, qu'être une femme. Est-ce que finalement, au-delà de simplement demander davantage d'égalité entre les hommes et les femmes, comme si c'était des catégories immuables, on va poser la question de qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, est-ce que ça doit, ces appellations-là sont naturelles ou et tombées du ciel, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on construit? Et la réponse transféministe va plutôt pencher vers la deuxième option.
Mais franchement, j'ai rien de plus à rajouter à cette très bonne définition, mais je trouve que c'est aussi important, effectivement, de rappeler que, enfin, on nous oppose souvent le fait qu'il y aurait les luttes trans d'un côté, les luttes féministes de l'autre, et que voilà, enfin, traitez vos petits sujets de trans et puis nous, on s'occupe du féminisme, quoi. Il y a un peu ce type de discours-là de la part des militantes anti-trans, mais pas que. Et je pense que c'est important de rappeler que, justement, les luttes trans, autant que les luttes féministes, et du coup, autant que les luttes transféministes, visent le même objet, c'est-à-dire refuser les assignations sociales, les rôles qu'on veut nous attribuer, et une division sexuelle qui fait souffrir beaucoup de gens. Donc je trouve ça, surtout dans ce contexte, encore une fois, médiatique, hyper délétère pour les personnes trans, rappeler peut-être ce fondamental-là.
Justement, oui, il y a vraiment une notion de convergence. Peut-être qui, je ne sais pas si vous, dans votre perception, c'est quelque chose que vous avez remarqué, mais il y a quelques années, on aurait pu dire que c'était quelque chose qui ne concernait que les personnes trans, le transféminisme, alors qu'aujourd'hui, finalement, on se rend compte que ça permet de faire aussi converger plein de questions et c'est émancipateur pour tout le monde.
Oui, surtout que le transféminisme, c'est quand même pensé pareil pour les femmes trans initialement. Enfin, je veux dire, les hommes trans n'ont pas du tout la même position au sein de ce courant de pensée et de lutte. Ce qui prouve bien que l'idée, c'est aussi de faire des ponts entre les femmes cis et les femmes trans, parce qu'il y a tout un référentiel d'expériences communes à discuter et du coup plein de fronts communs sur lesquels lutter en fait.
Voilà. Première pause musicale. C'est l'heure de la pause musicale, donc on va écouter Nterini de Fatoumata Diawara.
Nijarabi ma fega nyala nyala nterini nterini kabediza nekanu I want to know.
Vous écoutez toujours On se lève et on se casse, et on est toujours avec Daisy Le Tourneur et Talma Desta.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
tout à l'heure, Daisy, tu parlais de panique morale, et c'était un sujet qu'on voulait un peu approfondir avec vous deux. Est-ce qu'on pourrait pas un peu débunker ce concept ? On observe, par exemple, une tendance actuelle à importer des débats qui ont lieu aux États-Unis initialement et aussi en Grande-Bretagne, où non seulement il se dit, mais surtout il se passe des choses très graves pour les droits des personnes trans. Est-ce que vous vous souvenez, vous deux, du moment où vous avez vu émerger cette actu, ce retour en force des débats anglo-saxons qui arrivent de façon très prégnante en France ?
Ouais, alors on peut choisir évidemment plein de points de départ différents. Moi, je prendrais en particulier en 2020, au tout début de l'année, avant la pandémie, il y avait une certaine Marguerite Stern, connue comme militante féministe, qui a participé à lancer les collages contre les féminicides, qui était au Femen, voilà, tout un tas de choses, et qui a d'un coup décidé de l'ouvrir sur un sujet qu'il a travaillé depuis longtemps, qui était le fait qu'elle est super transphobe et elle déteste les personnes trans et elle veut pas qu'on ait de droits et elle trouve qu'on est partout et qu'on l'embête tout le temps. Ça, c'est une position qu'elle a gardée dans le silence pendant très longtemps, à ce qu'elle dit, parce qu'elle avait l'impression d'être isolée au sein du mouvement féministe. Et effectivement, quand elle a parlé... tout le monde n'était pas d'accord avec elle, mais d'un coup, elle s'est retrouvée à avoir une tribune dans Marianne pour expliquer à quel point c'est grave que les personnes trans, et les femmes trans en particulier, venaient créer une scission dans le féminisme. Alors qu'en fait, il y avait plutôt une sorte d'unanimité contre elle, mais Marguerite Stern s'est retrouvée avec plein de nouveaux copains et copines de la sphère réac qui ouvraient les bras grands ouverts pour accueillir des voix comme la sienne.
Et pourquoi, d'après vous, pourquoi ça a fonctionné ? Pourquoi soudainement elle a eu des copains, comme vous dites ?
Parce qu'en fait, il y a tout un tas de réseaux qui existent en France, des réseaux militants, des réseaux intellectuels, notamment on peut parler de autour du printemps républicain qui s'agite sur les questions de laïcité, qui pratique l'islamophobie au nom de la laïcité. On peut aussi citer les mouvements qu'on appelle abolitionnistes du travail du sexe, qui sont donc pour les lois interdisant la prostitution et qui font beaucoup de mal aux travailleuses du sexe. Ce sont des mouvements qui, en fait, sont toujours en attente de figures à mettre en avant, de panique morale à lancer. Et puis, assez vite, en fait, on a vu ressurgir la manif pour tous qui s'est beaucoup emparée du sujet. Et voilà, tous ces gens-là sont vraiment en attente de panique morale pour faire avancer leur agenda réac. Et d'un coup, l'existence des personnes trans dans les milieux féministes, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème qui pourrait peut-être faire exister là-dedans. Et puis après, on leur a parlé des personnes trans dans le sport. Alors ça, c'était un bon credo aussi. Et aussi, de plus en plus, on parle des enfants trans et de leur parcours médical. Et ça, c'était bingo pour eux, quoi.
Oui, oui, et on y reviendra. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ces gens-là qui ont tendance à critiquer le wokisme, les militants progressistes de toute mouvance, d'importer des problématiques de l'étranger, en fait, ils ont quand même trouvé leurs chevaux de bataille, justement, dans des mouvements réactionnaires américains et aussi anglais. Est-ce que vous pouvez expliquer ce processus-là ou
Bah, peut-être qu'on peut revenir du coup sur les États-Unis, effectivement, qui est, je pense, une espèce de laboratoire de la transphobie et de la transmisogynie à ciel ouvert. Effectivement, là, début 2023, donc sur le premier trimestre uniquement, il y a eu plus de 400 propositions de loi anti-trans. Donc, on est vraiment sur un matraquage législatif. Après, c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question de l'importation de ce modèle en France. Moi, je pense qu'il faut quand même essayer de prendre un peu de recul et de se dire que le contexte états-unien, c'est aussi un contexte où l'Église, par exemple, n'a pas du tout la même place dans les mœurs, enfin bon, juste culturellement. Ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas s'inquiéter de la montée des rhétoriques transphobes en France, pas du tout, parce que justement, on constate des liens de plus en plus importants entre les sphères anti-trans, par exemple, et certains ou certaines députées. Donc typiquement, Aurore Berger avait reçu Dora Mouto et Marguerite Stern récemment dans son bureau. Marlène Schiappa aussi, au moment où elle était ministre chargée de l'égalité femmes-hommes. Donc voilà, il y a des collusions qui se jouent en termes de lobbying. Typiquement pareil, au moment de l'interdiction des thérapies de conversion, bon, il y a eu un très très fort lobbying de la part des militantes anti-trans pour sortir la mention de l'identité de genre de cette loi et de fait ne pas protéger les personnes trans des thérapies de conversion. Donc je pense que ce dont il faut s'inquiéter, au-delà bien sûr de l'impact que ça a dans le traitement médiatique des parcours trans, c'est aussi l'impact sur les lois et du coup sur l'accès aux droits. Et je pense que recaler le débat sur l'accès aux droits est hyper important dans ce cadre parce que c'est ce qu'on voit aux États-Unis. La conséquence directe, c'est l'impossibilité d'accéder aux soins, voilà, la restriction de l'accès à la transition pour les mineurs, mais ça c'est une première étape. On sait très bien que ce qui va suivre ensuite, ça va être les restrictions tout court d'accès aux soins. Ça va être en fait l'accès à tous les espaces qui font la vie sociale, quoi. Parce que le sport, par exemple, je veux dire, tout le monde s'en fout du sport féminin et là, d'un coup, les femmes trans commence à gagner des compétitions et il y a une espèce de passion collective sur la défense des droits sportifs des femmes cis. Enfin bon, on voit bien encore une fois que c'est un écran de fumée. Donc je pense que c'est important de faire très attention à comment ça évolue, d'observer de très près ce qui se passe aux États-Unis et au Royaume-Uni et de voir quel penchant en fait la France va prendre. Mais moi j'ai quand même l'impression que même si on est on entend tous leurs discours par exemple en tant que personne trans, si on parle des féministes anti-trans, si on peut les appeler comme ça, je pense qu'elles restent quand même assez marginales pour l'instant. Donc ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas prendre beaucoup plus de place dans les mois et les années à venir, surtout dans un contexte où les discours réactionnaires avancent de plus en plus dans notre société. Mais voilà, je pense quand même qu'il y a deux sujets, deux espaces, deux territoires différents, et du coup ça ne va pas être les mêmes dynamiques non plus peut-être qui vont se jouer.
Oui, c'est deux contextes qui sont différents. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça commence par des lois anti-trans. Et en fait, déjà, par exemple, aux États-Unis, dans la loi qui a été dite « Don't say gay », donc l'idée, c'est de ne pas parler de ces thématiques d'orientation sexuelle, de questions de genre à l'école primaire, en Floride notamment. Et donc, petit à petit, ça grignote les droits, en fait, de toutes les minorités. Et ensuite... Enfin, on sait ce qui vient après.
Bah, ça, je pense que c'est hyper intéressant parce que ça prouve bien que la question de l'accès aux droits des personnes trans, c'est un pied dans la porte, en fait. C'est pas nous le sujet, tout le monde s'en fout de nous. Encore une fois, comme disait Daisy, on est une petite minorité de la population. Enfin, c'est une question de contrôle social des corps. C'est vraiment de la biopolitique puissance 1000. Typiquement, je prends par exemple une loi qui est censée protéger les droits sportifs des petites filles cis, donc une loi qui est passée par la Chambre des représentants de l'Ohio en 2022 et qui, du coup, pour pouvoir vérifier que la petite fille qui participe est bien une petite fille cis, on autorise l'examen de ses parties génitales de la part d'adultes en fait. Donc, enfin, je veux dire, au nom de la défense des droits des femmes cis, soi-disant, on en vient à attaquer le corps des enfants, on en vient à attirer le débat sur d'autres sujets comme l'IVG, comme, enfin, en fait, ça charrie tout un ensemble de mesures où j'ai l'impression que ça vient décaler la fenêtre d'Overton où on commence par les trans parce qu'en fait, les trans, tout le monde s'en fou et que personne va se mobiliser collectivement à large échelle pour défendre nos droits. Et puis ensuite, voilà, le pied dans la porte, on avance sur d'autres sujets, sur des sujets LGBT de manière plus large, et puis sur les droits des femmes dans leur population globale, etc., etc.
C'est l'heure de retrouver Flo et sa chronique musicale très vénère. Après avoir entamé l'année en nous parlant des Riot Girls, elle va maintenant nous parler de ses héritières.
Eh bien, bonsoir à vous. Aujourd'hui, dans ma chronique, je vais vous parler de révolte, d'incendie et un peu de bagarre aussi. En fait, comme ces dernières semaines en France. Bon, alors j'ai choisi de vous parler des Petrol Girls. C'est un groupe de post-hardcore féministes formé à Londres en 2012 par... Attention, je ne vais prononcer aucun de ces noms correctement. On a Ren Aldridge au chant et Liepa Curate à la basse. Plus tard, elles sont rejointes par Joe York et Zoc Hatspie à la batterie et à la guitare. Il faut savoir que la bassiste n'avait jamais fait de basse avant d'entrer dans le groupe et que les deux n'avaient répété que deux fois avant leur premier concert en 2012. C'était d'ailleurs à l'occasion de la journée de lutte pour les droits des femmes. Leur nom, Petrol Girls, fait référence aux femmes accusées d'allumer des incendies pendant la Commune de Paris, dont probablement celui de l'Hôtel de Ville en 1870. Et on les appelait les pétroleuses. Bon, finalement, on ne sait pas si elles ont vraiment existé ou si c'est un mythe inventé pour décrédibiliser les femmes révolutionnaires. Mais depuis, l'image étant quand même hyper empouvoirante, des mouvements féministes se la sont réappropriés. Et puis, le nom du groupe nous renvoie aussi vers les Riot Girls dont je vous avais parlé lors de ma première chronique. Vous savez, c'est ce mouvement musical féministe né dans les années 90 aux États-Unis qui veut mettre les femmes et les personnes queer sur le devant de la scène. Alors, sans vraiment d'ambiguïté, leurs textes sont féministes, anticapitalistes et assez radicaux. Ren Aldridge a un bon background de militante et ça se sent. Clairement, vous n'allez pas les voir pour passer une soirée posée, parce que ni la musique ni les paroles ne vous laisseront tranquille. Leur premier album sort en 2016. Ça s'appelle Talk of Violence. Et on peut dire que la première chanson, False Peace, incite littéralement à la désobéissance civile. Celle qui a le plus résonné pour moi dans cet album, c'est Touch Me Again. Elle résonne parce que j'ai le sentiment qu'on entend une femme, et je trouve ça assez rare en fait, qui veut changer la peur de côté. Et je trouve que ça donne vachement de force. Quant à leur dernier album, il est sorti l'année dernière et un concert était prévu au Petit Bain à Paris. Malheureusement, il a été annulé pour des raisons de santé. Dans cet album, le message est toujours aussi clair et principalement cette fois dirigé contre les religieux, l'État, la police. Mais surtout, il y a cette chanson hyper percutante qui s'appelle « Baby, I had an abortion », donc vous l'aurez compris, « Bébé, j'ai avorté », et dans laquelle Ren assume son avortement et le balance à la gueule des pro-vie. Avec un air bien narquois. Voilà, il me reste plus qu'à vous encourager très très fort à aller écouter leur album, si tout ça vous a parlé. Avant de partir en manif, par exemple ? C'est juste une suggestion, hein.
Merci beaucoup, Flo. C'est toujours l'heure de On se lave et on se casse. On est toujours avec Daisy Le Tourneur et Talma Desta. Vous l'avez déjà dit en début d'émission, cette haine, elle vient aussi et notamment des militantes féministes. On a déjà évoqué le terme TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist. Merci pour l'accent. Est-ce que c'est un terme que vous utilisez ?
Ben, c'est un terme que j'utilise de moins en moins, puisque à la base, il a été forgé pour désigner un certain mouvement dans le féminisme radical qui était violemment anti-trans. Il se trouve que il s'est généralisé, ce terme est devenu très populaire, et maintenant on a tendance à l'utiliser pour désigner n'importe quelle femme un peu transphobe. Le problème pour moi étant que si vous prenez une Dora Muto par exemple, elle a rien de radical, elle a du féminisme en elle peut-être, je suis pas trop sûr. En tout cas, c'est un terme qu'elle déteste en général, qu'elle voit comme une insulte alors qu'il est censé être purement descriptif, hein. C'est un simple acronyme où il n'y a pas un seul gros mot dedans, mais il y a Elles ont, en France, repris Dora Mouto et Marguerite Stern, décidé en fait d'acter leur scission du féminisme, quelque part, en lançant leur mouvement qu'elles appellent les femellistes, puisqu'elles veulent défendre les droits des femelles, contrairement aux droits des femmes qui ne seraient pas définies par leurs organes génitaux. Elles se considèrent comme définies par ces organes et elles veulent mettre leur nature en avant. Et moi, j'ai envie de dire, si vous voulez plus pas qu'on vous appelle féministe, très bien, parce que ça me semble tout à fait collé.
Tal.
Oui, enfin, je rejoins complètement Daisy sur cette analyse. Je pense que garder le terme TERF, c'est encore une fois ramener ces militantes-là au féminisme, alors qu'en fait, on ne parle pas de ça. Donc moi, ça me semble beaucoup plus juste d'utiliser la formule militante anti-trans, parce que recalons le sujet sur ce qui se passe. C'est ça, en fait. C'est littéralement de la lutte pour restreindre l'accès aux droits des personnes trans. Donc... En plus, je trouve ça hyper intéressant parce que ce placement dans les sphères féministes, ça sert leur discours, mais de la même manière qu'on peut justifier soi-disant une défense des LGBT par l'homonationalisme, par exemple. En fait, c'est encore une fois un écran de fumée qui permet d'échapper à plein de critiques. Donc typiquement, même si elles ont de plus en plus de mal à le cacher, ça va être « Non mais attendez, moi je peux pas être proche des sphères d'extrême droite, je suis féministe. » Enfin voilà, il y a une espèce de mise à distance comme ça qui empêche du coup d'analyser leur travail et leur militantisme comme un militantisme réactionnaire, et du coup ça me semble important de ramener sur ce terrain-là. Et je pense que les liens qui se font de plus en plus étroits entre les sphères réactionnaires clairement assumées, type la Manif pour tous qui reposte Dora Mouto encore récemment, type les échanges entre Marguerite Stern et Julien Rojdi, enfin bon voilà, il y a un milliard d'exemples que je vais pas tous les citer, mais c'est bien ça qui se passe en fait. C'est un rapprochement, non pas entre le féminisme qui est par essence un mouvement progressiste et des sphères réactionnaires, ça n'aurait pas de sens. Ça prouve bien qu'on est dans les deux cas dans une lecture réactionnaire du monde.
Et cette fracture-là et ce mouvement-là anti-trans, il est particulièrement, enfin, anti-trans venant du féminisme, théoriquement, il est très vocal en Angleterre, en Grande-Bretagne. Est-ce que vous pouvez en parler ?
Oui, en effet, on a en gros aujourd'hui plusieurs pôles dans le monde où la transphobie s'active particulièrement. Aux États-Unis, c'est notamment lié à la droite, au lien entre la droite et l'Église. Dans des pays comme la Russie, c'est le programme de Poutine. Au Royaume-Uni, c'est un peu particulier. Il y a vraiment eu ce mouvement féministe qui a été complètement obsédé depuis 10 ans, 15 ans par les personnes trans. Et ce qui fait qu'on est dans un pays là-bas où aujourd'hui il n'y a pas que la droite qui est transphobe, il y a aussi les travaillistes, il y a aussi leur commission à l'égalité et aux droits humains qui vient de faire une proposition de loi horrible qui retirerait aux personnes trans toute protection. Toute reconnaissance en fait de leur transition, c'est assez grave et assez flippant là-bas, et en fait on a vraiment une sorte de j'aime pas utiliser le mot hystérie parce qu'on sait que historiquement c'est plutôt connoté, mais il y a une panique autour des questions trans, et qui est aussi illustrée par exemple par la figure de J.K. Rowling qui est aujourd'hui consacre finalement sa vie, son énergie et ses milliards à lutter contre les droits des personnes trans, alors qu'on n'est pas sûr qu'elle ait croisé l'une d'entre nous dans sa vie.
Oui, ce que je voulais rajouter aussi là-dessus, c'est qu'encore une fois, ces discours-là, ils ont un impact sur l'accès aux droits et sur l'accès aux soins. Donc typiquement, là récemment, au Royaume-Uni, le seul hôpital public qui accueillait des mineurs trans, donc Tavistock, est en phase de fermeture, là, parce que ce centre est accusé de donner trop facilement des bloqueurs de puberté aux mineurs, parce qu'on sait très bien, hein, quand on est une personne trans, que transitionner médicalement, c'est hyper facile, et qu'on a des kilos de médicaments qui nous tombent dessus au premier rendez-vous avec un médecin. vaccin, n'est-ce pas? Et par exemple, on peut citer aussi le bras de fer avec l'Écosse très récemment, où l'Écosse, du coup, avait, le Parlement écossais avait déposé un projet de loi pour faciliter les transitions et les changements d'état civil. Et le secrétaire britannique en Écosse, il a annoncé le blocage de cette loi. Donc effectivement, il y a un contexte particulier au Royaume-Uni qui ne va pas s'incarner, je pense, de la même manière que c'est le cas aux États-Unis, par exemple, parce qu'il y a l'argument religieux en moins, mais on reste sur un argumentaire moral et souvent sur le même sujet de protection des enfants, parce qu'encore une fois, c'est les plus instrumentalisables, les enfants.
Oui, et alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi, en différence de contexte entre les États-Unis et le Royaume-Uni, aux États-Unis, il y a quand même eu l'arrivée de Trump au pouvoir qui a complètement laissé le champ libre aux règles de la pire espèce un peu partout sur le territoire américain. En Angleterre, j'ai l'impression que justement, il y a eu ce mouvement TERF anti-trans qui a eu aussi pas mal d'impact pour rendre ce discours-là audible et validé par des gens pas forcément réactionnaires au départ, en tout cas.
Ben oui, je veux dire, à partir du moment où la porte-parole des TERF au Royaume-Uni, c'est littéralement la femme la plus riche d'Angleterre, forcément ça aide, parce que, enfin, je veux dire, J.K. Rowling aussi annonce très clairement aussi financer des organisations qui, enfin voilà, soit en sous-texte, soit directement luttent contre les droits des personnes trans. Donc évidemment qu'avoir ce relais médiatique-là, parce que c'est une figure vraiment centrale dans l'histoire culturelle du Royaume-Uni.
Oui, et plutôt progressiste à l'origine dans ce que les gens pensaient, en tout cas, enfin... avant qu'elle...
Oui, bien sûr, avec toute la relecture de son œuvre, bien sûr, que d'un coup Dumbledore devient gay et que machin... Enfin oui, c'est une belle relecture aussi. Mais je pense que c'est pas anodin non plus que voilà, cette figure-là soit présente. Enfin, nous, on a des figures qui me semblent assez marginalisées. Moi, je pense pas que le tout venant connaisse Dora Mouto ou Marguerite Stern. Ça reste des profils beaucoup plus niches qu'au Royaume-Uni.
Oui. En plus de la frange transphobe du mouvement féministe, il y a aussi une autre frange qui devient de plus en plus vocale ces dernières années en France, dans le cadre de ce backlash, c'est les abolitionnistes. Et bizarrement, cette frange a tendance, on le voit notamment sur les réseaux sociaux, à faire ce lien étrange entre transidentité et travailleurs du sexe, comme une insinuation que les personnes trans encourageraient à la prostitution. Comment est-ce que vous expliquez ce parallèle qui revient quand même de plus en plus souvent ?
D'une part, il y a quand même une vérité qui est qu'il y a beaucoup de personnes trans et notamment de femmes trans qui vont avoir recours au travail du sexe pour des raisons évidentes de précarité. En fait, quand votre famille, vos amis dehors, que vous avez besoin de financer une transition qui va vous coûter... Des plusieurs milliers d'euros et que le marché du travail ne vous accueille pas forcément à bras ouverts quand vous êtes visiblement trans, eh ben, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Et donc, il y a pas mal de personnes trans qui font du travail du sexe pour survivre, tout simplement. Après, la bizarrerie dans ces mouvements, c'est de... Ils voient les travailleuses du sexe dans la plupart des cis comme des victimes. Par contre, les travailleuses et travailleurs du sexe trans seraient des espèces de fétichistes qui font ça par perversion. Il y a un lien énorme, en fait, et pas qu'en France, entre ces mouvements abolitionnistes qui ont tendance à vouloir lutter, soi-disant, pour les travailleurs et travailleuses du sexe, mais qui finalement luttent plutôt par-dessus elles et eux, en les écoutant pas, en faisant des choses qui finalement vont contre leurs intérêts. Et du coup, ces mouvements-là vont aussi être un déni de transphobie. Ils sont très ouverts à finalement ne pas écouter les gens et se faire leurs propres idées. Du coup, leurs idées sur nous sont sorties de nulle part, de leur imagination, et vont être très, très néfastes.
Drôle.
Ouais, et puis j'aimerais rajouter aussi que je trouve ça complètement lunaire du coup d'accuser, enfin d'accuser les femmes trans de faire du travail du sexe, alors que comme le dit Daisy, enfin c'est aussi une question de contraintes matérielles. Quand on prend par exemple, il y a aussi la question des papiers en fait qui entre en jeu et qui me semble hyper importante. La plus grosse asso en France qui accueille des femmes trans travailleuses du sexe est très souvent sans papiers, sud-américaine, c'est Accept ST, c'est des femmes qui exercent dans le bois de Boulogne. Encore la semaine dernière, c'était le procès des meurtriers de Vanessa Campos qui l'ont assassiné en 2018 dans le bois de Boulogne pendant qu'elle exerçait le travail du sexe. Donc je trouve ça lunaire, c'est le moins qu'on puisse dire, de faire de ces victimes d'un système qui marginalise les personnes sans papier, les personnes trans et les personnes migrantes, d'en faire les bourreaux, quoi. C'est un renversement, encore une fois, rhétorique complet.
Comme ça arrive assez régulièrement dans les discours anti-trans, globalement.
C'est une constante.
Justement, on a, finalement, ce qu'on démontre aussi depuis le début de cette émission, c'est que on a les mêmes ennemis, femmes cis, femmes trans, personnes LGBT de manière générale. C'est quelque chose que vous soulignez dans votre travail avec l'association Toutes des Femmes, Daisy. Quand on regarde les acteurs du débat sur la transidentité, on en a un petit peu parlé, les signataires de Tribune Réac, les observatoires comme celui de la Petite Sirène. On observe les mêmes processus rhétoriques et les mêmes profils qu'à l'émergence de la Manif pour tous il y a 10 ans. Donc des gens dont la conception des droits des femmes est assez limitée.
Oui, tout à fait. En fait, nous, à Toutes des Femmes, on s'est fondé autour de en réponse en fait à ces attaques transphobes qui voulaient mélanger féminisme et transphobie, comme s'il y avait un gros problème dans le féminisme français, alors que nous ne sommes pas le Royaume-Uni. Nous sommes dans une situation assez différente, où en fait le mouvement féministe français globalement a bien compris que les combats des personnes trans n'étaient pas une menace, que nos droits et les droits des femmes cis vont dans le même sens. Et globalement, on peut avoir parfois des désaccords ou des choix de stratégies qui sont différents, et je dis pas que tout est rose, mais nous, à Toutes des Femmes, on arrive à travailler avec nous toutes, on arrive à tisser des liens avec le planning familial. Globalement, le féminisme français, il est pas transphobe, et la position transphobe, elle est en minorité. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour nous une grosse source d'espoir. C'est qu'on pense que l'attaque ne viendra pas de ce côté-là. En tout cas, on fait tout pour.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de où on en est en France sur les droits des personnes trans?
Justement. Passer au chantier, question que tu voudrais ouvrir. Voilà, une question pas. Un peu trop large, sans doute.
Peut-être sur les droits qui nous restent à conquérir.
Peut-être.
Moi, je dirais que
commencer par l'élimination.
Peut-être la première chose à dire, c'est que les droits des personnes trans, ils n'ont pas évolué depuis 2016 en France, avec une loi qui a un peu simplifié le changement de sexe, de la mention de sexe à l'état civil, sans être non plus le idéal, parce que ça reste une procédure compliquée, il faut passer devant un juge, produire tout un tas de papiers, de preuves, de témoignages, et être face à l'appréciation du juge. Donc une de nos revendications, ce serait de simplifier cette démarche, comme ça a pu être fait dans plein de pays d'Europe, en Espagne, en Finlande, en Belgique. Vous allez à la mairie, vous déclarez que vous souhaitez changer votre petit M en F ou l'inverse. Et
c'est bon.
Et dans ces pays-là où ça s'est passé, eh ben, il n'y a pas eu de catastrophe, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, il n'y a pas eu d'agresseurs qui se sont amusés à changer leur mention de sexe à l'état civil pour commettre des agressions, parce que tout simplement, ils n'ont pas besoin de ça pour les commettre, en toute impunité. Donc voilà, on peut parler de ça comme champ de lutte, mais surtout, voilà ce que je voulais dire, c'est que on est sur une espèce de panique là où soi-disant on serait là à prendre de plus en plus de place, etc. Alors que nos droits en France, ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas bougé.
Oui, je suis d'accord. Je te rejoins sur en fait la question de l'autodétermination de manière générale et qui se retrouve à toutes les étapes de nos parcours. Enfin bon, qui n'existe pas du coup pour l'instant, mais où chaque étape du parcours, sur le plan médical, sur le plan chirurgical, sur le plan du changement d'état civil, sur le plan administratif de manière globale, à chaque étape en fait, il va falloir que une institution républicaine appose son sceau sur nos parcours et nous dise c'est bon, tu as le droit, tu es légitime à avoir accès à ces soins. Ou à cette reconnaissance sociale qui sont juste vitales pour nous. Donc je pense que cette dimension-là, d'être autodéterminée, elle est importante parce que la France a été un des premiers pays à soi-disant dépsychiatriser, dépathologiser la transidentité en 2010. Dans les faits, cette dimension de vous savez probablement pas vraiment ce que vous voulez, donc on va vraiment tout contrôler à chaque étape, c'est encore extrêmement présent dans nos parcours et ça, il faut que ça change.
Pour que ça change, justement, une des voies, c'est quand même de se mobiliser, de s'unir, de bosser ensemble. C'est ce que fait votre collectif, Daisy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sa raison d'être à toutes des femmes ?
Oui, alors toutes des femmes, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment pour nous de créer d'une part du lien avec le mouvement féministe, travailler ensemble. Ce qu'on a fait avec Nous Toutes, par exemple, c'est une formation en ligne aux questions trans et aux luttes trans qui a été vue par 400 ou 500 personnes, je ne sais plus, de Nous Toutes. Donc ça, c'était assez génial. On fait beaucoup on essaye de produire un contre-discours, en fait, pour débunker un peu tous ces discours réac qui sont déroulés à longueur de tribunes et d'articles dans la presse. On essaye de... vraiment en fait être aussi là pour aider les journalistes qui veulent travailler sur ces questions-là à pas tomber dans les pièges des discours qui par exemple veulent nous présenter une scission au sein du féminisme qui serait grave où tout le monde se déchirerait en France sur les questions trans On essaye globalement de faire en sorte que dans les médias, les gens disent un peu moins de conneries. Et ça se passe plus ou moins bien.
Tal, vous avez aussi écrit un livre, donc La fin des monstres. On en parlait. Vous y partagez donc de manière intime et très émouvante votre parcours, votre expérience. À qui ce livre s'adresse aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a un double public. Déjà, évidemment, je l'ai beaucoup écrit en pensant aux autres personnes trans. L'idée, évidemment, c'est pas de dire que je raconte mon parcours et du coup, c'est une espèce d'image universelle de la transition. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Je suis un mec trans blanc. Donc l'idée, c'est plus de donner une fenêtre sur ce que peut être un parcours trans en France aujourd'hui, ce qui me permet à moi de réhumaniser le sujet, parce que là on parle vraiment ce livre s'inscrit dans un contexte médiatique clairement, enfin celui qui a cours actuellement en France où on est la question trans quoi. Donc l'idée du jeu, c'est pas tant de parler de moi parce qu'on s'en fout, plutôt de dire en fait voilà ce qui se passe vraiment derrière et qu'est-ce qui se joue pour nous, à quoi on aspire, comment on s'organise, quels obstacles on rencontre sur nos chemins. Donc voilà, il y a une partie plus intime, et puis il y a une partie vraiment plaidoyer, où je parle aussi beaucoup de juste la condition des femmes trans aussi en France. Donc voilà, l'idée, c'est simplement d'avoir un objet où les personnes trans peuvent aussi se reconnaître et être peut-être soulagées à certains endroits, en tout cas j'espère. Et évidemment, l'autre public, c'est les personnes cis qui ne comprennent rien à tout ça et veulent en savoir plus. C'est vraiment un objet pédagogique. Je l'ai conçu comme ça. Je l'ai voulu le plus accessible possible, par exemple. Et assez court aussi, pour ne pas abreuver d'éléments théoriques sur 600 pages. Donc ouais, c'est un peu un double récit à double lecture.
Donc on peut écrire, on peut lutter, on peut se rassembler. C'est quoi l'enjeu actuellement pour vous deux, pour faire converger lutte féministe mainstream, lutte trans, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Vaste projet là.
J'ai envie de dire, faut aller manifester contre la réforme des retraites, qui en fait impacte, on le sait, très sévèrement les femmes et davantage les femmes que les hommes. Et évidemment, quand on parle de impacter aussi les personnes qui ont des carrières hachées, des carrières qui n'ont pas pu cotiser pendant 43 annuités ou je ne sais plus combien, etc., et ben, ça concerne aussi beaucoup les personnes trans et toutes les personnes LGBT qui ont rencontré, qui ont pu être en rupture familiale, qui ont pu avoir des difficultés dans leurs études, qui ont pu perdre leur job parce que elles transitionnaient. Et je veux dire, on va, on n'a pas de chiffres sur l'impact de la réforme des retraites sur les personnes trans, tout simplement parce que on nous étudie très peu, qu'on est une toute petite minorité. Voilà, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes trans en fait qui se disent que la retraite, elles arriveront même pas jusque-là. Moi, j'aimerais qu'on fasse en sorte que notre vie soit plus simple et qu'on arrive à la retraite et qu'on arrive à la retraite pas à 64 ans. Et c'est ça aussi que j'essaye de porter comme message, c'est que toutes les politiques néolibérales du gouvernement actuel qui ne sont pas ouvertement transphobes, en fait, ils ne considèrent pas les personnes trans, ils ne font rien pour nous, ils ne parlent pas de nous. Et des fois, j'ai envie de dire tant mieux, mais ils font tout un tas d'actions qui vont contre nous, contre nos droits, tout simplement parce qu'on est les personnes, parmi les personnes les plus précaires, parmi les personnes les plus vulnérables. Et donc, voilà, il faut aller manifester.
Très bien. Message entendu, un dernier mot, Tal?
Non, je ne vais pas répéter à chaque fois, mais je suis très d'accord avec Daisy.
Moi, je suis très d'accord avec tout ce que tu dis aussi.
Bon, bah super, c'est vraiment génial. On est sur un consensus, mais non, peut-être simplement, mais ça rejoint ce que tu dis aussi. Je pense que ce qui permet de faire converger les luttes, c'est de montrer qu'il y a des terrains communs, en fait, des terrains de violence vécue commune, des terrains de perspective, du coup, aussi commune. Et effectivement, parler de précarisation, parler de l'isolement, enfin, parler voilà, des conditions économiques de vie de manière générale, ça peut être aussi un pont qui font se connecter les luttes ensemble. Donc retrouvons-nous toutes à la prochaine manif, et puis voilà,
on vous retrouve là-bas. Super, merci beaucoup à tous les deux. La fin des monstres vient de paraître, Thelma Desta, Daisy Le Tourneur, on peut vous lire On n'est pas mec, à la découverte. Et on vous retrouve dans vos combats, vrai, sur les réseaux, voilà,
un peu partout.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
When I think about
Wet Leg et leur titre Yo Mam.
C'est bientôt la fin de cette émission, mais d'abord il y a une chronique santé de Pauline.
Bonjour Pauline, bonjour Mao.
Salut Pauline, alors aujourd'hui tu nous parles des femmes et de psychiatrie, parce que la santé mentale c'est aussi un enjeu féministe, et le patriarcat s'exerce aussi en matière de psychiatrie. Est-ce que le vécu des femmes est suffisamment connu des professionnels de psychiatrie? Quid d'une psychiatrie féministe?
Mais lui, est-ce qu'il ne souffre pas un peu de la situation? Et vous pensez pas que d'une certaine façon, inconsciemment, vous provoquez ce genre de choses? Tout ça, c'est des variantes de ce que peut entendre une femme victime de violence lorsqu'elle se rend chez un psy. Parce que oui, spoiler alerte, nos psys vivent dans le même monde que nous et se conforment eux aussi aux clichés sexistes, misogynes, homophobes, transphobes et j'en passe. Par psy, j'entends ici des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes. C'est des professions qui ont certes des méthodes différentes, des approches différentes, mais qui, disons, au sens large, se donnent comme but de soigner les maux de l'esprit et vers lesquels une femme victime de violence peut être amenée à se tourner. La première chose à savoir, c'est que ces disciplines se sont largement construites sans les femmes, sans les minorités de genre et sans les minorités sexuelles. Au mieux, ces derniers étaient des non-sujets, étaient absents de la littérature. Au pire, ces disciplines étaient carrément instrumentalisées pour justifier des mécanismes oppressifs. Aujourd'hui, on connaît bien l'histoire de l'hystérie, prétendue pathologie féminine, qui a servi à interner beaucoup de femmes dans les siècles passés. En réaction à des décennies de disciplines sexistes, est apparue dans les années 70 la psychologie féministe et son pendant clinique, la thérapie féministe. Alors pendant de nombreuses années, ces soignantes ont travaillé à défaire les stéréotypes de genre qu'avait alimenté la psychiatrie. Par exemple, non, les femmes ne sont pas masochistes par nature, n'ont pas un certain penchant pour la souffrance. Elles ont mis en lumière le fait qu'envisager des violences comme des phénomènes à l'échelle de l'individu, bah ça peut masquer toutes les dimensions sociales, politiques, systémiques qu'il y a autour. Autrement dit, si un soignant il est face à une personne victime, quel que soit ce type de violence, il ne peut pas faire abstraction du fait qu'il y a toute une société derrière, tout un système qui permet ces violences. Alors d'accord, mais est-ce que en 2023 on a encore besoin de convoquer des féministes des années 70? En gros, est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de psy-féministes? Bah ouais, parce que d'abord la bataille des violences de genre, elle n'est pas encore gagnée, et loin de là. Et aussi parce que ces soignants militants, ils ont acquis une expérience précieuse dans la prise en charge des victimes. Alors faut-il faire des cabinets des lieux politiques? Je pense que oui, parce que si on fait rentrer petit à petit l'idée que les médecins, les gynécologues, les chirurgiens, les spécialistes ne doivent pas agir en oppresseurs dans leur cabinet, qu'ils doivent demander le consentement à leurs patientes, je vois pas pourquoi ce changement se ferait pas non plus sur le divan de nos psys. Si on arrive peu à peu à faire entendre que l'intime est politique, alors quand on vient en consultation avec toute notre intimité, il faudrait également venir avec tout ce que la société dans laquelle nous vivons charrie de clichés, de stéréotypes, de violences qu'on peut subir. Et alors, en attendant que tous les cabinets de psy deviennent des lieux safe, je vous recommande le site Psy Situé qui recense les psys inclusifs et féministes. Et si vous voulez en savoir plus sur les apports et la richesse de la psychologie féministe, je vous encourage vivement à lire les travaux de la sociologue Stéphanie Page sur le sujet. Car si l'introspection, le travail de connaissance de soi sont des outils formidables d'émancipation, il est indispensable d'examiner nos comportements à l'aune de nos socialisations respectives.
Merci beaucoup Pauline pour ta chronique. Les liens dont tu nous as parlé seront à retrouver sur la page de l'émission.
C'est déjà la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette nouvelle heure de réflexion autour du féminisme.
Merci à vous, Thelma Desta et Daisy Le Tourneur, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Je rappelle que vos ouvrages respectifs, « On ne naît pas mec » pour Daisy Le Tourneur et « La fin des monstres » pour Thelma Desta sont tous les deux en librairie. Et merci aussi, bien sûr, à nos chroniqueuses Flo et Pauline et à notre réal en or, Suzanne. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine.
Salut !